Radio de la Paix, il est 12h. Le journal de midi, Didier Blé.
Excellente mi-journée, mesdames, messieurs, bonjour et bienvenue à cette édition. Trois accords de coopération signés entre la Côte d'Ivoire et la République de Corée. Une déclaration hier du président Alassane Ouattara qui a regagné Abidjan après un séjour en France, puis en Corée où il a pris part au premier sommet Corée-Afrique. Vote de la modification du code pénal ivoirien. Le président de la FIDOP, Boga Sako, estime que le nouvel article 185 restreint la liberté d'expression et la liberté d'opinion du citoyen. Vous l'entendrez dans cette édition. Et puis sur le même thème, vous retrouverez dans l'invité de la rédaction Abdoulaye Ben Maïté, député RHDP. Il se prononcera sur cette modification du code pénal ivoirien et la position de ses collègues de l'opposition sur le sujet. Abdoulaye Ben Maïté s'entretiendra avec Jean-Claude Comé. Après l'actualité internationale, vous aurez un dossier d'actualité sur la délocalisation du parc à bétail de Port-Boué pour Ajame Ferraille. Un dossier signé Linda Balier. Merci de nous retrouver et bienvenue à tous. Le président de la République, Alassane Ouattara, a regagné Abidjan hier dimanche après un séjour en France puis en Corée, où il a pris part au premier sommet Corée du Sud-Afrique. Dans la déclaration faite à la presse, le chef de l'État ivoirien a évoqué ses entretiens avec son homologue coréen Yoon Suk-yeol et l'ancien secrétaire général des Nations Unies Ban Ki-moon. Alassane Ouattara a également mentionné sa participation au premier sommet Corée du Sud-Afrique et au sommet des affaires Corée-Afrique, ainsi que la signature de trois accords de coopération entre la Côte d'Ivoire et la République de Corée. On l'écoute.
Je me suis félicité du dynamisme de nos relations avec la Corée, avec notamment le lancement de l'initiative pour le développement de l'Afrique en 2006 et plus récemment la mise en œuvre du programme coréen Belt Rice. Après donc la décision de la Corée de construire la maison du Taekwondo en Côte d'Ivoire après ma visite de 2014. J'ai aussi souligné la nécessité d'accroître davantage nos échanges commerciaux avec la Corée, de consolider les excellentes relations de partenariat, notamment dans le domaine de la transformation de nos produits agricoles. J'ai également eu un entretien avec le président de la Banque Import-Export de Corée. Ce premier sommet Corée-Afrique a été un grand succès pour notre pays, qui a par la même occasion signé des accords de coopération avec la République de Corée, un sur l'exemption de visa pour les détenteurs de passeports diplomatiques officiels et de service, un deuxième accord cadre relatif au fonds de coopération pour le développement économique pour les années 2024 à 2028 pour un montant d'$1 milliard, et l'établissement d'un cadre pour la promotion du commerce et des investissements.
Le président ivoirien Alassane Ouattara, et puis toutes nos excuses pour la qualité sonore de cet élément. Vote de la modification du code pénal ivoirien le jeudi 6 juin dernier à l'Assemblée nationale. Ce texte, soutenu par le RHDP, a suscité de vives inquiétudes au sein de l'opposition, notamment du PDCI-RDA et du PPACI. Donnant son avis sur ce texte, le président de la FIDOP, Boga Sako, estime que cette loi, votée en sa disposition 185 alinéa 2, pourrait restreindre un certain une liberté fondamentale. Écoutons l'argumentaire du président de la Fondation ivoirienne pour l'observation et la surveillance des droits de l'homme et de la vie politique, la FIDOP, Boga Sako.
On n'a pas besoin forcément d'être juriste pour s'intéresser à la loi, parce que la loi s'impose à tous les citoyens. C'est pour cela que lorsque le Parlement vote une disposition nouvelle, il faut toujours en informer le peuple, car le juge dira demain que nul n'est censé ignorer la loi. Première observation. La deuxième, c'est que à chaud, la disposition qui a été votée atteint à la vérité, à un certain nombre de faits que la loi veut sanctionner. Notamment, ils ont parlé de l'apologie de la violence, l'apologie du terrorisme, l'apologie des casses. En clair, si un homme politique ou un citoyen appréciait, soutenait, félicitait des casses ou bien des destructions de biens d'autrui, etc., il est passible de certaines peines. Le danger qu'il y a là-dedans, en tant que militant des droits de l'homme, est-ce que cette disposition-là ne restreint pas la liberté d'expression et la liberté d'opinion du citoyen. Ce n'est pas normal. Parce que l'Assemblée nationale est censée représenter le peuple. Or, le peuple a besoin de liberté. Le peuple a voté des dirigeants. Mais si ces dirigeants-là, ils ne se comportent pas comme il faut, le peuple a le droit, lui, propriétaire exclusif du pouvoir en démocratie, a le droit de critiquer le dirigeant.
Boga Sako, président de la FIDOP, après sa réaction sur le vote de l'article 185 nouveau du Code pénal ivoirien par l'Assemblée nationale, retrouvons celle du juriste et analyste politique Geoffroy Julien Kouaou, estime que les députés PPSCI et PDCI-RDA disposent encore de recours contre cette loi avant d'être promulguée.
La majorité a tranché, c'est ainsi que fonctionne la démocratie, mais dans tous les cas de figure, rien n'est encore fait. Parce que tout ce qui concerne par exemple les libertés publiques peuvent être déférées devant le Conseil constitutionnel. Donc les députés, même les associations des droits de l'homme, peuvent, avant sa promulgation, déférer cette loi devant le Conseil constitutionnel qui en dernier ressort va se prononcer. Dans tous les cas de figure, tout ceci montre bien que nous sommes dans une dynamique démocratique et c'est une très bonne chose.
Alors la démocratie, comme le disait un professeur de droit, c'est la dictature de la majorité, vous êtes d'accord?
Oui, c'est la dictature de la majorité dans le respect des droits de la minorité. Dans tous les cas, la loi s'applique à tout le monde. Aujourd'hui, ceux qui ont voté cette loi peuvent être demain dans l'opposition et on verra. Dans tous les cas de figure, lorsqu'on vote une loi, on doit penser plus à l'intérêt général qu'à l'intérêt égoïste. Parce que la démocratie, par essence, est libérale. Elle repose sur la liberté. Et dans une démocratie, l'un des critères de la vitalité démocratique, c'est la liberté d'expression, c'est la liberté de penser, c'est la liberté de conscience, c'est la liberté de réunion, la liberté d'action, la liberté d'aller, la liberté de venir. Et toute mesure allant dans le sens de restriction de cette liberté écorne dangereusement la démocratie.
Voilà, c'est le juriste et analyste politique Geoffroy Julien Kouaou. Il a été joint par Francis Cassier. La Côte d'Ivoire annonce son adhésion au principe du Parlement ouvert. C'est un mécanisme à travers lequel le Parlement ivoirien s'engage à promouvoir l'ouverture, à renforcer les processus parlementaires et le travail des législateurs en collaboration avec la société civile. Le lancement de ce principe a eu lieu les 6 et 7 juin dernier à Grand Bassam à l'occasion d'un atelier parlementaire. Julien Cardin.
Cet atelier marque la première action du Parlement ouvert en Côte d'Ivoire, selon le directeur pays d'Expertise France, Alexandre Fulon, opérateur sur l'activité.
Il est une suite concrète du sommet Afrique et Moyen-Orient du partenariat pour un gouvernement ouvert qui s'est tenu du 1er au 3 novembre 2022 au Maroc, durant laquelle la Côte d'Ivoire, à travers son président de l'Assemblée nationale, s'est engagée à développer des initiatives pour favoriser la transparence parlementaire au niveau national à travers la promotion du Parlement ouvert.
Au nom du président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire, la vice-présidente Sylvie Yao a dit être convaincue que la mise en place du Parlement ouvert conduira le Parlement ivoirien vers une opportunité de partage d'expériences et de bonnes pratiques pour promouvoir des usages et des protocoles parlementaires plus inclusifs.
Le Parlement est une institution qui place le peuple au cœur de sa fonction de représentativité. Son ouverture, selon le sens des thèmes présentés par le PGO, ne fera que renforcer la visibilité et la redevabilité de notre institution.
Pour sa part, le coordonnateur mondial du Parti pour un gouvernement ouvert, PGO, a lancé un appel aux autorités ivoiriennes. Alonso Cerdan.
Dans un contexte mondial où la démocratie est attaquée, les lueurs d'espoir qui montrent comment la démocratie peut être efficace deviennent de plus en plus importantes. Continuer à nourrir ces quatre engagements aux quatre chantiers du modèle du gouvernement ouvert ivoirien pour apporter des résultats aux citoyens et montrer comment le gouvernement ouvert peut être approprié à sa manière par chaque pays du monde.
Les parlementaires ivoiriens disent compter sur les expériences de l'Assemblée nationale française et de la Chambre des représentants du Maroc au fin de la construction d'un plan d'action pour un Parlement ouvert.
Et puis le ministère des Ressources animales et halieutiques a mis sur pied un projet de feuille de route pour le financement des activités de développement de l'économie bleue en Côte d'Ivoire. Ce projet mis en œuvre en collaboration avec l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, FAO, et réunissant différents acteurs du secteur, était au centre d'un atelier de concertation les 6 et 7 juin à Grand Bassam. Mel Emmanuel.
Lors de son allocution d'ouverture des travaux de l'atelier, le ministre des Ressources animales et halieutiques n'a pas manqué de revenir sur les objectifs visés par l'élaboration de la feuille de route dans le cadre de la transition vers l'économie bleue. Sidi Thiemoko Touré.
La feuille de route ambitionne de faire des systèmes alimentaires aquatiques un pilier majeur du développement durable en Côte d'Ivoire en exploitant pleinement les opportunités offertes par ces secteurs et ces systèmes en tant que moteur de création d'emplois, d'augmentation de croissance économique et de développement social.
À son tour, le représentant de l'Organisation des Nations Unies pour l'Alimentation et l'Agriculture, FAO, a également mis l'emphase sur les objectifs situant le rôle des parties prenantes. Attaher Maïga.
L'économie bleue vise également à instaurer un environnement permettant aux travailleurs des secteurs de la pêche, de l'aquaculture et des autres secteurs en lien avec cette approche d'agir non seulement en tant qu'utilisateur des ressources, mais également en tant que gestionnaire de ces ressources.
En outre, la FAO entend s'investir pleinement dans la réussite du projet. Attaher Maïga.
Nous mettrons à disposition notre expertise technique, ressources et notre réseau global pour accompagner la mise en œuvre des actions prioritaires qui seront identifiées au cours de cet atelier.
Il est à noter que le projet de préparation pour le financement des activités de développement de l'économie bleue en Côte d'Ivoire bénéficie du soutien financier de la Banque africaine de développement.
Merci à vous, Mel Emmanuel. Et puis à 12h10, parlons de l'entreprise coopérative des agriculteurs de Méagui, qui a célébré ses 20 ans d'existence à l'occasion de son assemblée générale ordinaire organisée le jeudi 6 juin 2024 à Méagui. ECAM Coopérative, modèle spécialisé dans la collecte et la commercialisation des fèves de cacao, compte 3061 producteurs, dont 546 femmes. Kofi Benson.
Avec un chiffre d'affaires des produits d'exploitation d'un peu plus de 2 900 millions de francs CFA, ECAM, entreprise coopérative des agriculteurs de Méagui, a pour son bilan de 2023 fait un bénéfice de 5 millions de francs CFA contre 12 millions l'année d'avant. Un bilan justifié par Doumbia Assata, présidente du conseil d'administration de ECAM.
La gestion financière, les programmes de durabilité, ça s'impose à nous. Il faut employer des personnes de qualité. Il faut investir sur le matériel aussi, ce qui nous fait beaucoup d'argent à faire sortir. On essaye de s'adapter à chaque fois qu'il y a un défi. Cela, on le fait toujours avec le producteur. On s'adapte aussi avec les partenaires. Ils ont leur vision. On partage ces visions-là avec eux.
Pour Francesca Di Mauro, ambassadeur de l'Union européenne en Côte d'Ivoire, ECAM mérite d'être appuyée.
Une coopérative modèle qui s'engage vraiment dans la durabilité de la filière, qui est occupée évidemment à faire en sorte que le cacao soit produit sans être issu de la déforestation et aussi à obtenir un revenu décent pour les producteurs. Et c'est le même combat en fait que nous menons à l'Union européenne.
Pourquoi si Jérémy, directeur en charge du développement agricole au Conseil Café Cacao, ECAM est un modèle.
Pour nous, ECAM est un des modèles que nous attendons des entreprises coopératives en Côte d'Ivoire. On nous reproche beaucoup de choses, dont l'utilisation de la main-d'œuvre juvénile. On nous reproche également d'agresser les forêts pour produire du cacao. Et il était question pour nous de mettre en place un système de traçabilité pour démontrer que notre cacao n'est pas forcément produit dans des zones illicites.
Kofi Benson, de retour de Méagui, Radio de la Paix.
Actualité sur le continent au Niger, Niamey, ce dimanche, plusieurs organisations de la société civile nigérienne et des syndicats se sont réunis pour une prise de parole commune au sujet des tensions avec le Bénin voisin. Pour les signataires de la déclaration, la nouvelle stratégie de cet impérialisme occidental consiste à susciter coûte que coûte un conflit avec le Niger. Mercredi, 5 citoyens nigériens ont été interpellés à Semekboji au niveau du terminal portuaire béninois du pipeline pour lequel et par lequel transite le pétrole nigérien. Le procureur parle le lendemain de doutes sur leur identité, sur l'usage de faux badges et d'une entrée frauduleuse sur le site. Et puis le président français Emmanuel Macron a annoncé dimanche soir la dissolution de l'Assemblée nationale et l'organisation de nouvelles élections législatives. Ceci après la victoire aux européennes de l'extrême droite française, loin devant le camp de la majorité présidentielle. Pour Moussa Diao, professeur émérite en sciences politiques, cette dissolution de l'Assemblée en France changera des rapports avec l'Afrique dans le sens où il y aura, entre autres, beaucoup plus de respect des États africains et moins d'ingérence dans les politiques africaines. Sans transition, nous passons au dossier d'actualité. Délocalisation du parc à bétail de Port-Boué pour Adjamé Ferraille. Si la colère des riverains et l'émeute qui a prévalu a alerté la capitale économique samedi 1er juin, le calme est revenu aux abords de l'abattoir de Port-Boué. L'opération de délocalisation du parc à bétail se poursuit. Cependant, les commerçants de bétail peinent à trouver des parcs disponibles. Le constat terrain de Linda Ballier.
À notre arrivée, le calme règne aux abords de l'abattoir de Port-Boué où plus d'une dizaine de cargos de la police nationale et municipale sont stationnés. À l'intérieur du parc à bétail, le désarroi et l'irritation peuvent se lire sur les visages des bouviers et des riverains, car seul le parc était visé pour sa relocalisation à Djamé-Ferraille, comme l'expliquent ses résidents.
Le problème, on nous a dit qu'on va nous déloger, qu'on va nous envoyer dans un autre coin pour faire le marché de bétail. Mais pour venir casser, nous n'étions pas au courant. On ne sait pas si c'est ça qui a fait ou bien c'est les délais, nous aussi on les gâte.
Ils ont dit qu'ils vont casser les lieux où on garde les moutons là. Bon, après c'est devenu les locaux où on habite, ils ont tout saccagé, donc on a pu ramasser certains bagages pour venir déposer ici, en attendant qu'on va trouver des solutions.
Et sur la question de ce déménagement, les Bouviers n'y voient aucun inconvénient, seulement ils estiment que toutes les conditions d'accueil sur le nouveau site ne sont pas réunies.
J'ai dit au parc ici, tout le monde veut partir, il n'y a pas de cogne, il faut partir. Si on a eu aujourd'hui le cogne qui est prêt, on est prêt de partir même demain, sans discussion. Le cogne n'est pas prêt. Toi-même, il faut aller voir. Il n'y a pas courant, il n'y a pas l'eau, il n'y a pas sécurité. Voilà, on dit hier, ils ont tué quelqu'un là-bas. Les bandits là sont tué quelqu'un là-bas. Étrangers qui avaient venu, outilos. Ou bien, les vendeurs de bœufs n'ont pas de maison.
Si j'ai gagné bon là, nous-mêmes, tu n'es pas ici. Il n'y a pas galbal, il n'y a pas lit, il n'y a pas de l'eau, il n'y a pas courant, il n'y a pas sécurité. Dans le bien là, tu n'es pas en ville. Nous, tu n'es pas même.
Ah, on dit qu'il y a des délégations qui sont parties voir le coin, mais on dit que le coin, ce n'est pas encore clôturé. Ah, c'est ça, moi, je ne suis pas encore parti là-bas pour voir le coin.
Direction donc à Djamé-Ferraille pour découvrir le nouveau site du parc à bétail. Sur les lieux, anciens locataires et nouveaux arrivants s'affairent à construire les enclos tout en déchargeant les camions bondés de bêtes. Mais quel processus d'accueil pour les acteurs venus de Port-Boué? Le représentant de la filière bétail à Djamé, Ouedraogo Oumar, répond.
On résiste le nom de ceux qui arrivent. Ceux qui donnent l'argent, on est en train de payer des bois, quoi, pour faire des enclos. Plus de 500 enclos qui sont déjà en place depuis dimanche.
Réaction d'un commerçant venu de Port-Boué.
Ici, on a eu la place. Il y a des places pour tout le monde ici. Moi, je suis quitté à Port-Boué, je suis arrivé. On m'a déjà donné la place pour mes bétails qui vont venir. Je suis content.
Notons que ce site d'Adjamé-Ferraille est provisoire, selon le représentant de la filière bétail à Djamé Ouedraogo Oumar, qui a laissé entendre que l'emplacement définitif du parc à bétail d'Abidjan, d'une superficie de 20 hectares, sera situé à Agnama.
À présent, l'invité de la rédaction, Abdoulaye Ben Maïté, député RHDP, se prononce sur la modification du code pénal ivoirien et la position affichée par ses collègues de l'opposition sur le sujet. En effet, les groupes parlementaires PPACI et PDCI-RDA sont contre certaines dispositions de cette loi qui, pour eux, sont contraires à la liberté d'expression et au droit de manifester. Sur la question, Abdoulaye Ben Maïté s'entretient avec Jean-Claude Comé.
Abdoulaye Ben Maïté, bonjour.
Bonjour.
Il y a une modification du code pénal à son article 185 qui a cristallisé les positions, notamment du groupe parlementaire de l'opposition PPACI et PDCI. Que dit en substance cette loi et à quel niveau se trouvent les modifications?
D'accord, je vous remercie. Il faut savoir c'est qu'à la faveur de cette modification de certaines dispositions de la loi pénale, quant à sa mise en conformité avec les peines complémentaires, notamment la confiscation, l'exécutif a saisi l'opportunité pour procéder à un toilettage au niveau de cette décision où il y avait des mots à répétition. Donc c'est précisément le cas de l'article 185 qui, faut-il le rappeler, existe depuis 1981 et qui a résisté aux modifications de 2019. Donc en substance, ce sont les mêmes dispositions. Quand vous lisez l'article 185, il y a seulement une petite modification au niveau de l'alinéa premier. L'alinéa premier était indiqué antérieurement comme suit, faire l'apologie des crimes de meurtre, de pillage, d'incendie ou de destruction d'édifices, de vol, des crimes contre le droit des gens et des infractions prévues aux articles 2 et 3 du présent chapitre. Le nouveau alinéa 1 dit faire l'apologie de crimes, de destruction d'édifices, de vol, des infractions contre le droit des gens et des infractions prévues aux chapitres 2 et 3 du présent titre. Donc en réalité, il y avait une répétition au niveau des crimes de meurtre, parce que le meurtre déjà était un crime. Et quand on va plus loin, on dit des infractions contre le droit des gens. Or, il était indiqué des crimes contre le droit des gens et des infractions prévues au chapitre 2. Donc, en réalité, c'est un toilettage. Maintenant, j'entends dans la presse qu'on parle de l'alinéa 2e. En réalité, le président de la République n'a fait aucune modification de l'article 185.
C'est vrai, vous l'avez souligné, que l'article 185 existe depuis 1981. Mais peut-être à la réélecture, le groupe de l'opposition, en tout cas à l'Assemblée, se rend compte que l'article L 185 alinéa 2 pourrait porter atteinte au droit d'expression, à la liberté d'association et bien d'autres. Et c'est ce qui a été relevé dans les débats.
Je suis inquiet. C'est à croire que les députés attendent l'exécutif pour comprendre les textes. Et cela est vraiment regrettable. Parce qu'en réalité, ce texte existe. Je pense que si l'opposition était intervenue dans le sens, effectivement, d'une proposition de loi modificative, je pourrais comprendre. Mais l'exécutif vient pour essayer de mettre en forme sa propre loi. Et vous sautez sur l'opportunité de faire une proposition d'une disposition nouvelle, dans le sens d'un alinéa. Mais l'exécutif n'est pas ça sa volonté. Au surplus, qu'est-ce qui empêchait l'opposition, si tant est qu'elle estimait que cette disposition n'était pas adaptée à la liberté d'expression, qu'est-ce qui empêchait cette opposition de procéder à une proposition de loi modificative?
Mais c'est ce qui a été fait visiblement à la plénière.
Non, ce n'était pas ça. Les travaux de commission ont porté sur la modification qui a été apportée à la linéa première par rapport à la mise en conformité. Ça a été adopté à l'unanimité des députés. Et nous sommes allés à la plénière. Et à la plénière, ce qui se passait, c'est qu'ils ont demandé l'ajout d'un autre alinéa. Et l'alinéa qu'ils ont proposé était en substance lié à émettre des restrictions quant à cette disposition de l'alinéa deuxième, à savoir qu'il fallait faire échapper les hommes politiques. Autrement dit, ce que l'opposition demande, c'est lorsque une personne est condamnée pour un chef d'infraction qui est prévu par le texte et que cette personne, après sa condamnation définitive, l'opposition veut qu'on lui permette de lancer un appel au public en solidarité avec le condamné dans le sens de désobéir à l'autorité.
Alors, mais l'opposition rétorque que, justement, le citoyen a un droit à l'expression, à manifestation. Donc, mettre dans une loi, surtout cette disposition, cela enfreint à sa liberté.
Mais je pense que c'est le PDCI qui s'en est fait l'écho. Mais je vais rappeler qu'en 1981, c'est bien le PDCI qui était au pouvoir. Et je vous indiquais tout à l'heure que c'est une disposition qui existe depuis 1981.
Mais on était en situation de monopartie.
Très bien. Si tant est que c'est une disposition qui était regrettable, je pense que de 2001 jusqu'en 2010, c'est bien le PPACI qui était au pouvoir. Et cette disposition existait encore. Donc aujourd'hui, on ne peut pas faire un jugement, reproche au président de la République de vouloir effectivement fossoyer la liberté. Ce qui leur est demandé, c'est mon point de vue. S'ils estiment que cette disposition qui était adéquate hier ne l'est pas aujourd'hui parce qu'ils sont dans l'opposition, qu'ils aient le courage visé de leur pouvoir parlementaire d'en proposer effectivement une relecture dans les termes du règlement de l'Assemblée nationale à la faveur d'une proposition de loi modificative et le peuple se prononcera.
Alors, vous êtes député donc RHDP. Pourquoi avez-vous voté cette loi?
Cette disposition ne viole en rien la loi fondamentale, les conventions internationales, parce que pour la simple et bonne raison que les conditions de répression sont bien définies. Il s'agit de conditions cumulatives. La première condition, il faut d'abord donc faire la politique de crime et consorts, des pillages, des sentiers et tout ça. Mais au-delà, il faut que vous lancez un appel au public dans le dessein, donc avec l'objectif de désapprouver l'autorité en solidarité avec un condamné au moins dans le cadre d'une infraction spécifique. Donc pour moi, il n'y a rien de nouveau.
Alors, mais donner son opinion en public sur un sujet donc d'ordre judiciaire, est-ce que c'est cette compréhension que nous devons avoir?
Ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Ce n'est pas l'avis qui est incriminé. Les hommes politiques s'expriment librement. Mais il ne faudrait pas que ce soit effectivement un appel à désobéissance.
Honorable Aboulaye Mété, je vous remercie.
C'est moi.
Voilà, c'était l'invité de la rédaction. Notre invité, Abdoulaye Ben Meïté, député RHDP, se prononçait sur la modification du code pénal ivoirien et la position des collègues de l'opposition sur le sujet. Il était avec Jean-Claude Comé, entretien qui referme ce 12 heures, le rappel des titres. Trois accords de coopération signés entre la Côte d'Ivoire et la République de Corée. Déclaration hier du président Alassane Ouattara qui a regagné Abidjan après un séjour en France puis en Corée où il a pris part au premier sommet Corée du Sud-Afrique. Puis vote de la modification du code pénal ivoirien, le président de la FIDOP, Gervais Bogasako, estime que le nouvel article 185 restreint la liberté d'expression et la liberté d'opinion du citoyen. Et puis sur le continent au Niger, la société civile s'exprime sur la crise avec le Bénin après l'arrestation de 5 Nigériens. Nous allons à présent retrouver pour la revue de presse Mel Emmanuel. Nous, on se prend à 15h.
Bonjour à toutes et à tous. Depuis la fin de la semaine dernière, un sujet a fait et continue de faire couler encre et salive. C'est l'adoption